France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Hitler, l'insaisissable cadavre. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les théories du complot les plus folles assurent que le monstre a survécu à la chute de son régime. L'homme qui a ordonné l'assassinat industriel des Juifs d'Europe, qui a fait tuer tant d'autres humains et plongé le continent européen dans la désolation et la mort, continue de susciter de puissants fantasmes. Au-delà de cette fascination morbide, les doutes qui subsistent autour de la mort du tyran s'expliquent. Arrivés les premiers à Berlin, les soviétiques ont allègrement épaissi le mystère. Pendant longtemps, Staline a préféré garder le secret autour des découvertes de l'armée rouge, deux corps calcinés, méconnaissables, retrouvés enterrés dans les jardins de la chancellerie du Reich. Et puis les rivalités entre les différents services secrets ont ajouté une couche. Dans cette enquête déjà compliquée par le travail des flammes, qui ont dévoré les corps du dictateur et de son épouse Eva Braun. Certes, la relative ouverture des archives russes a permis de soulever certains voiles de ce mystère vieux de 80 ans, mais pas tous. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Jean-Christophe Brizard, auteur avec sa consœur russe Lana Parchina, d'une enquête sur le sujet dont il a tiré un livre et un documentaire pour France 2 intitulé « Les mystères de la mort d'Hitler ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Sur la place rouge de Moscou, musique militaire et marche au pas cadencé, les soldats et les vétérans russes célèbrent le 55e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous sommes le 9 mai 2000 et dans les tribunes, on compte trois dirigeants successifs de l'URSS. Il y a là Mikhail Gorbatchev, dernier secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, l'artisan avec Reagan et Jean-Paul II de la chute du mur. Il y a Boris Eltsine, le tout premier président de la Fédération de Russie et le nouvel homme fort à Moscou, Vladimir Poutine. On ne le sait pas encore, en ce début de 21e siècle, à peine plus d'une décennie après l'effondrement de l'URSS, mais cet homme, Poutine, ne va cesser de mettre l'histoire au service de son projet politique. Pourtant, sa prise de pouvoir commence par une opération vérité. À quelques pas de la place rouge, les moscovites peuvent aussi, en ce 9 mai 2000, visiter une exposition qui vient d'ouvrir ses portes et qui révèle un secret jalousement gardé depuis la fin de la guerre.
Classé top secret pendant 55 ans, les objets appartenant au Führer et à son entourage présentés pour la première fois au grand public. Une exposition intitulée « L'agonie du Troisième Reich » qui retrace les derniers jours d'Adolf Hitler et surtout lève le voile sur l'étrange destinée de sa dépouille mortelle.
Le clou de l'expo se trouve dans la dernière pièce du parcours, une pièce au mur tendu de velours rouge. En son milieu, une vitrine de verre abrite un morceau de boîte crânienne présenté comme celle d'Adolf Hitler. Pour la première fois visible pour le public, les restes de la carcasse du dictateur nazi étaient donc bien en possession des soviétiques, ce qui n'avait jamais été confirmé, et cela pendant plus de 50 ans. Ce mystère, entretenu par les autorités soviétiques pendant un demi-siècle tout de même, a été le carburant des rumeurs les plus dingues. Dès les premiers jours de mai 45, les journaux s'interrogent dans leurs gros titres. Où est Hitler ? Sur les barricades berlinoises ? En fuite avec Eva Braun vers le Danemark ? Ou toujours aux mains de l'Allemagne ? Ou bien encore vers l'Espagne, de Franco ? Régulièrement, depuis 1945, d'autres hypothèses farfelues émergent. Le dictateur aurait-il quitté son Reich en ruine dans un sous-marin secret, direction le Japon ? À moins qu'il ne coule les jours tranquilles en Argentine, au Paraguay ou même au Groenland, tout y passe. Autre avatar de ce serpent de mer complotiste, en 2014, une Brésilienne, Simone Guerrero Dias, détaille dans un ouvrage sa conviction. Hitler serait mort de sa belle mort en 1984 à 85 ans, dans le Mato Grosso, en plein cœur du Brésil. Extrait de son interview dans un talk show brésilien.
Voici le livre
«
Hitler au Brésil ». Dans celui-ci, vous défendez une théorie osée.
Oui.
Quelle est-elle ?
la théorie qu'Hitler est mort au Mato Grosso.
Vous croyez cette théorie ? Enfin, vous la défendez ?
Oui, je la crois. Il faut juste que je fasse un test ADN pour avoir une certitude absolue. À part ça, je n'ai aucun doute.
Maintenant, nous avons reçu ici une photo de Hitler. Cette photo est la preuve principale qu'Hitler a vécu ici au Brésil. C'est cette photo ?
C'est cette photo.
C'est Hitler ?
C'est Hitler, après l'accident qu'il a eu avec un tracteur. Mais c'est Hitler.
Le ton se veut ironique, mais on invite quand même Simone Guerrero-Dias à détailler sa thèse délirante sans la moindre preuve. En Europe et ailleurs, toute la presse rend compte de la révélation de la Brésilienne sans beaucoup de recul. Fake news quand il nous tient. Ça veut dire aussi, et surtout, qu'Hitler continue de susciter une attraction malsaine des décennies après sa disparition. Il est vrai qu'avec les circonstances de sa mort, le verre était dans le fruit. Fin avril 1945, l'atmosphère est apocalyptique à Berlin. Le 20, jour de l'anniversaire du Führer, les troupes soviétiques ont atteint les faubourgs de la ville, déjà anéantis par les bombardements alliés incessants. Ce 20 avril, c'est la dernière fois qu'on verra le dictateur à l'air libre dans les salles dévastées de la chancellerie. Grotesque, sur les tapis épais jonchés de bruits de fenêtres, quelques dignitaires nazis viennent rendre hommage à l'homme qui, il y a quelques semaines encore, faisait trembler le continent. Les seuls visiteurs qui galvanisent à un tant soit peu l'homme fort de ce Reich à genoux, ce sont les membres des jeunesses hitlériennes, présents eux aussi pour cet anniversaire. Avec ferveur, Hitler leur demande de défendre Berlin jusqu'à la mort. Le dictateur a maintenant 56 ans, il en paraît 20 de plus, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Bête traquée, cachée comme un rat dans un bunker creusé à 8,50 m en dessous de la chancellerie. Bien sûr qu'il a perdu la guerre, mais lui continue de croire qu'un retournement est possible et il ne veut pas quitter son antre. Une semaine plus tard, le 28 avril, l'armée rouge n'est pourtant plus qu'à 1 km à peine de la chancellerie. 2 millions de soldats soviétiques quadrillent, une par une, les rues de la capitale, ou ce qu'il en reste. Dans le bunker, ils sont encore quelques dizaines. Hitler, sa maîtresse Eva Braun, ses secrétaires et divers domestiques, auxquels il faut ajouter les militaires, ainsi que la famille Goebbels, qui a débarqué au grand complet, le père, la mère et les enfants. Ce dernier carré de nazis fanatiques n'a plus comme contact avec le monde extérieur que la seule BBC World Service. C'est sur ces ondes, justement, que l'aéropage nazi bunkerisé découvre l'ultime trahison. 3 jours après Göring, qui a pensé pouvoir remplacer Hitler inhumé dans son bunker, c'est au tour d'Himmler, fidèle entre les fidèles, de tenter des tractations avec les alliés. Le chef de la SS propose une paix négociée aux Britanniques et aux Américains. Et ça, c'est le coup fatal. L'un des derniers militaires à avoir quitté le bunker, le baron von Lorkinkoven, raconte cet épisode devant la caméra d'un juge américain du procès de Nuremberg en 1948.
Baron Lorkinkoven, à quel moment précis Hitler a-t-il perdu tout espoir ?
Quand il a su qu'Himmler avait essayé de capituler auprès des forces occidentales, il a explosé et a déclaré que jamais un traître ne deviendrait Führer après lui.
Et les bombes ne cessent de faire trembler les murs pourtant épais du bunker. Pris au piège, le tyran n'a pas une pensée pour la survie de la poignée de fidèles qui l'entoure. Il refuse que les rats quittent le navire. Ce 29 avril, la souricière accueille même un nouveau venu. Il s'appelle Walter Wagner. Il est officier d'état civil de la ville de Berlin. Dans cette ambiance dantesque de fin du monde, il est là pour célébrer un mariage, car Hitler s'est enfin décidé à épouser celle qui partage sa vie depuis 16 ans, Eva Braun. Oh, la cérémonie ne dure pas plus de 10 minutes. Impossible en effet de procéder aux vérifications des documents officiels, les documents requis par les lois du Troisième Reich. Comme par exemple, les futurs époux sont-ils véritablement ariens ? Ne sont-ils pas atteints d'une maladie génétique ? Walter Wagner appose quand même son paraphe, indiquant que les circonstances de guerre l'exemptent de respecter à la lettre les préceptes nazis. Le marié, lui, conserve cet air éteint, comme l'esprit ailleurs. Songe-t-il à ses dernières volontés, celles qu'il vient de dicter à l'une de ses secrétaires, Traudel Jung ? Après la courte célébration, celle-ci est retranscrite dans sa machine à écrire les dernières paroles officielles de cet homme qui a plongé l'Europe dans le feu et dans le sang. Et elle commence ainsi ses paroles. Voici mon testament politique.
Il n'est pas vrai que moi ou qui que ce soit en Allemagne ayons voulu la guerre en 1939. Celle-ci a été désirée et provoquée exclusivement par ces hommes d'État internationaux qui sont d'origine juive ou qui travaillaient pour des juifs. J'ai fait suffisamment d'offres de limitation ou de contrôle des armements pour que la postérité ne puisse rejeter sur moi la responsabilité de cette guerre. En outre, je n'ai jamais désiré qu'après la Première Guerre mondiale, il puisse y avoir une seconde guerre contre l'Angleterre ou l'Amérique. Des siècles passeront. Mais des ruines de nos villes et de nos monuments, la haine contre ceux qui, en fin de compte, sont responsables de cette guerre, surgira de nouveau. Et il y a des hommes auxquels j'adresse mes remerciements. C'est la Juiverie internationale et ses séides.
La défaite imminente ne détourne pas le fondateur du nazisme de ses fondamentaux, la haine mortelle des juifs, qu'il pilonne encore à la veille de mourir. Oui, à la veille de mourir. Car Hitler s'est décidé. Il va se suicider avant que les soviétiques ne lui fassent la peau ou l'emprisonnent. Hitler l'annonce également dans ses dernières volontés.
Mon épouse et moi-même, afin d'échapper à l'infamie de la destitution ou de la capitulation, optons pour la mort. Notre désir est d'être incinéré, là où j'ai effectué la plus grande partie de mon travail quotidien, pendant les 12 années passées au service de mon peuple.
Quelques heures plus tard, dans la nuit du 29 au 30 avril, un autre événement, dont la nouvelle parvient jusqu'au bunker, à nouveau grâce à la BBC internationale, convainc Hitler de mettre fin à ses jours et d'organiser la destruction ensuite de sa dépouille.
Milan était dans un état d'excitation extrême car des partisans venaient de tuer Mussolini. Le cadavre du dictateur, de sa compagne et d'autres fascistes était exhibé sur la place où des Italiens déchaînés les ont frappés et leur ont jeté des ordures. Dernière scène macabre, les cadavres ont été pendus par les pieds près d'une station essence. Voilà un avertissement clair aux derniers fascistes, où qu'ils soient.
Justement, la plus grande crainte du dictateur nazi, c'est d'être exposé à la vindicte de la foule, une fois pris, mort ou vif. Hitler est persuadé que Staline veut faire de lui son trophée de guerre. Le tyran imagine que les soviétiques tentent d'insuffler des gaz somnifères dans les tuyaux d'aération du bunker pour le capturer vivant. Alors, il s'agit pour Hitler de ne pas rater sa mort. Comme tous les dignitaires du régime, il porte toujours sur lui de petites ampoules de cyanure. Celle qu'il garde au fond de sa poche, mais c'est Himmler qui le lui a donné, avant de le trahir. Alors, peut-il encore faire confiance à ce parjure? Pour en avoir le cœur net, Hitler ordonne à son maître chien de faire avaler le contenu d'une des fioles à son berger allemand, Blondie, sa chienne adorée. On casse l'ampoule dans la gueule de l'animal, qui ne tarde pas à convulser. Le cyanure d'Himmler est donc bien efficace. Le lendemain, le 30 avril, à 8h du matin, le dictateur vaincu relève enfin les derniers occupants du bunker de leurs obligations de rester à ses côtés. Hitler dicte ensuite à son fidèle Martin Bormann l'ordre d'évacuer le quartier du gouvernement. Les domestiques restants tentent la fuite dans un Berlin plus bombardé que jamais. Après le déjeuner, les derniers fidèles se rassemblent devant l'antichambre du chef. Hitler leur tend une main molle. Eva Braun, devenue Madame Hitler, les enlace, pimpante dans sa robe noire, dont le col s'orne d'un liséré de petites roses. Puis la porte du petit salon se referme derrière eux.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was? Ist geschehen. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Hitler, l'insaisissable cadavre.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
À Berlin, les combats font encore rage dans la soirée de ce 30 avril 1945 autour de la chancellerie du Reich. Les ultimes SS sèment la mort fanatisés, tombent à l'un sous les balles soviétiques. Mais avant même que le drapeau rouge ne flotte sur le Reichstag, une nouvelle parcourt la ville en ruine.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead.
Hitler est mort et l'amiral Dönitz, commandant en chef de la marine allemande, prend en main les destinées du peuple allemand. Telle est la nouvelle donnée ce soir à 10h25 par la radio allemande.
Staline donne immédiatement l'ordre de retrouver le cadavre du dictateur nazi. Mais ce n'est pas son corps qu'on retrouve en premier, non. Il y en a 6, couchés côte à côte dans les jardins de la chancellerie. 2 corps adultes à moitié brûlés, un homme et une femme. Le premier porte une chaussure orthopédique. Ils sont encore reconnaissables, ces corps. Il s'agit de ceux de Joseph Goebbels, le propagandiste du régime, et de sa femme, Magda. À leur côté, leurs enfants, dont les corps ont échappé aux flammes, empoisonnés au cyanure par leurs propres parents. Le 4 mai, les hommes du Schmersch, l'unité de contre-espionnage de l'armée à qui Staline a confié la tâche de retrouver au plus vite le cadavre d'Hitler, s'attarde sur une botte en bon état qui émerge d'un petit monticule. Un corps, puis 2 sont extraits d'un cratère creusé par une bombe, puis recouverts de terre. Et eux sont entièrement carbonisés. Mais l'emplacement où ils sont retrouvés colle avec les premiers témoignages recueillis par le contre-espionnage auprès de prisonniers nazis. Un adjudant de la Wehrmacht, affecté selon lui à la surveillance du jardin recouvrant le bunker, affirme ainsi qu'il a vu en fin de journée du 30 avril Otto Günsche, l'aide de camp d'Hitler, et Heinz Linge, son valet, brûler 2 corps à cet endroit même, à grand renfort d'essence. Quelques instants auparavant, Hans Bauer, le pilote du Führer, venait de lui apprendre les suicides d'Hitler et d'Eva Braun. Une jeune femme d'une trentaine d'années vient confirmer que la découverte du Schmerz est la bonne. Käthe Häusermann est l'assistante du docteur Blaschke, le dentiste personnel d'Hitler. Dans un procès-verbal d'interrogatoire, elle déclare
« J'affirme que les bridges et les dents qui me sont présentées appartiennent à Hitler selon les indices suivants. Sur la mâchoire supérieure présentée, je vois une rayure nette laissée par une fraise quand on avait scié le bridge en or se trouvant après la quatrième dent. Je connais bien cette trace, car cette opération avait été effectuée en automne 1944 par le docteur Blaschke avec ma participation pour arracher à Hitler sa sixième dent. En outre, il y a ici toutes les caractéristiques des bridges et des dents d'Hitler au sujet desquelles j'avais donné des dépositions lors de l'interrogatoire. »
Identifiés, les cadavres peuvent partir à l'autopsie. Le 8 mai, le jour de la signature de la capitulation allemande, le médecin légiste Faust Czarski établit le rapport qui consigne cette autopsie. Et il insiste sur l'état très dégradé des corps qu'il a examinés. Le feu les a déformés, noircis à l'extrême. Il manque une partie de la boîte crânienne du cadavre masculin. Mais la cause de la mort y est pointée sans hésitation, empoisonnement au cyanure. Comme élément à l'appui de cette affirmation, le procès-verbal évoque la forte odeur d'amande amère que dégagent les dépouilles, signe d'utilisation de ce poison, ainsi que des bris de verre dans les cavités buccales, comme des restes d'ampoules écrasées. Cette version de l'histoire a tout pour plaire à Staline. Lui qui veut démontrer que les nazis sont les véritables sous-hommes écrasés par la grandeur soviétique. Se donner la mort en se tirant une balle? Non, l'option est bien trop glorieuse pour imaginer qu'Hitler l'ait choisi. Le poison, en revanche, l'arme des lâches, correspond parfaitement au récit que l'URSS veut faire du conflit qui vient de s'achever. Et c'est sans doute pour cela que c'est la version que le Schmerz livre à Staline, sans pousser plus loin ses investigations. Pourtant, au moment où ces rapports atterrissent sur le bureau du maître du Kremlin, un autre service soviétique tient, lui, une autre version. Elle provient d'un prisonnier de haut rang interrogé par le NKVD, la police politique, ancêtre du KGB, tenu d'une main de fer par le sinistre Lavrenti Beria. Eh bien, il se trouve que le NKVD a serré Otto Günsche, l'aide de camp personnel d'Hitler. Et le 18 mai, celui-ci affirme tout net à ses geôliers qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête. De l'autre côté de la porte, Heinz Ling a entendu un coup de feu, oui, et il est venu illico l'en informer. Commence alors, pour l'aide de camp, une longue série d'interrogatoires au cours desquels lui sont posées inlassablement les mêmes questions.
Quand êtes-vous entré pour la première fois dans la pièce où a lieu le suicide? Et qu'avez-vous vu?
Je suis entré dans la pièce à 16h45. J'ai vu que le tapis sur le sol avait légèrement bougé et qu'il y avait une tache de sang. Sur la table, il y avait plusieurs petites boîtes avec des ampoules de poison. À côté du divan, deux pistolets se trouvaient au sol. L'un de calibre 7,65 mm et l'autre de 6,35 mm. Dans l'antichambre où se trouvait le cadavre d'Hitler, on pouvait sentir une très forte odeur d'amande.
Qui dit vrai? Otto Günsche, nazi invétéré qui ne démord pas du coup de feu mais évoque aussi le cyanure, ou le médecin légiste affilié au Schmerz qui a accrédité noir sur blanc la thèse de l'empoisonnement? Dans le dossier qu'il ficelle sur le sujet à destination de Staline, Beria, le patron du NKVD, ne livre aucun commentaire. Il laisse au chef suprême de l'URSS le loisir de tirer lui-même les conclusions de ses investigations. Avec une certitude tout de même, Hitler est bien mort et ce qu'il reste de son corps est désormais enfermé dans une malle sous la responsabilité du Schmerz. Staline garde toutefois ces informations capitales pour lui. Début juin 1945, il reçoit à Moscou les représentants du président américain Truman, venus préparer la conférence de Potsdam qui doit se tenir en juillet, entre les alliés. Quand les Américains lui confessent leur espoir de mettre la main sur le corps d'Hitler, Staline leur fait part de son sentiment. Le dictateur nazi est bien vivant et se terre quelque part, oui, mais où? En Suisse sans doute, où les banquiers capitalistes ne peuvent que le protéger. Ou bien encore au Japon, qu'il aurait pu rejoindre en sous-marin. Au moment où il soumet ses fables aux envoyés du président américain, Staline a pourtant lu les rapports adressés par ses services et il sait pertinemment que le Schmerz vient tout juste d'enterrer les corps retrouvés, ceux d'Hitler et d'Eva Braun, mais aussi Goebbels, et des Goebbels, toute la famille, dans un endroit tenu secret de la petite ville de Rathenow, non loin de Berlin, en zone d'occupation soviétique, évidemment. Le 9 juin 1945, avec autant d'aplomb que son commandant suprême, le général Yukov, le grand vainqueur soviétique de la bataille de Berlin, affirme à son tour, devant la presse internationale, qu'aucun corps n'a pu être identifié comme celui du dirigeant du Troisième Reich. « Tout ceci reste bien mystérieux, avoue-t-il, tout en éludant les questions. « Je ne sais rien de ce qui lui est arrivé, dit-il encore. » Avant de s'adresser aux reporters occidentaux, il leur dit « Et maintenant c'est à vous, Britanniques et Américains, de le retrouver. » Mais pour les services secrets de ces pays, il n'est pas question d'attendre le général Yukov pour se lancer dans la contre-enquête. Sans pouvoir accéder à la scène du crime, sous contrôle soviétique, il recueille les témoignages des nazis arrêtés dans leur zone. et les rares compagnons des dernières heures du Führer qu'ils ont sous la main témoignent tous du suicide de leur chef par arme à feu. Alors les alliés se montrent de plus en plus pressants avec leurs partenaires soviétiques pour qu'ils mettent à disposition les interrogatoires de dignitaires nazis, tous ceux qu'ils détiennent, et que les Britanniques et les Américains ne détiennent pas, précisément. Et puis Beria y aperçoit une opportunité de faire tomber son rival du Schmerch, Viktor Abakumov, qui a, selon lui, bâclé l'enquête. Pour y voir clair, le chef du NKVD lance donc sa contre-enquête, l'opération Mythe. Première étape, interroger à nouveau tous les prisonniers de premier plan. Et le NKVD ne va pas prendre des pincettes. Heinzling, le valet d'Hitler, en témoignera plus tard dans ses mémoires.
Comme je ne disais pas ce que le commissaire voulait entendre, j'ai été obligé de me déshabiller et de me pencher nu sur un chevalet. Le commissaire m'a prévenu que je serais roué de coups si je ne crachais pas le morceau. Nu et humilié, j'ai persisté à donner la même version. Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945. J'ai brûlé son corps. Le commissaire s'est tourné vers un lieutenant à la carrure impressionnante qui tenait un fouet et lui a ordonné « Donne-lui ce qu'il mérite ». J'ai hurlé comme un cochon qu'on égorge. Il m'a alors dit avec cynisme « Tu dois connaître cette technique mieux que nous. Nous l'avons apprise des SS et de la Gestapo. »
Les interrogatoires à coups de cravache dans les bureaux sinistres de la Lubyanka, où siège le NKVD, ne suffisent pas. Les témoins sont aussi déplacés à Berlin, au printemps 46, dans le plus grand secret. Ils ne disent rien de plus qu'à Moscou, confirmant leur dire dans les lieux mêmes où se sont déroulés les événements. Si les équipes du NKVD de Beria peuvent accéder aux ruines du Führersbunker, pas question en revanche d'approcher les cadavres. Le Smersh, qui seul sait où sont enterrés, refuse toute coopération. De sa propre initiative, Viktor Abakumov, le patron du contre-espionnage, fait même à nouveau déplacer ses restes humains, toujours en Allemagne, en zone soviétique, à Magdebourg, où le Schmerz a établi son quartier général est-allemand. Les agents du NKVD entreprennent alors de fouiller à nouveau les jardins de la chancellerie. Et là, le sort leur sourit. Dans le cratère où les corps d'Hitler et de Braun ont été découverts, un an plus tôt, en mai 45, ils retrouvent deux morceaux de crâne. On distingue encore sur l'un d'eux des morceaux d'impact de balle. Ces bris d'os pourraient correspondre à la partie manquante du crâne d'Hitler selon le rapport d'autopsie réalisé un an plus tôt. Une vérification sur les cadavres suffirait à s'en convaincre. Mais là encore, le Schmerz oppose une fin de non-recevoir. Et pas question pour le NKVD de s'en plaindre à Staline. Viktor Abakumov est l'un des favoris du despote russe. Beria range donc prudemment les rapports qui lui ont été adressés au fond d'un tiroir. Et les fragments de crâne rejoignent les volumineuses archives de la police politique. Résultat, jamais ces vérifications ne pourront être réalisées. En 1970, Yuri Andropov, le grand chef de l'espionnage russe de l'époque, ordonne une dernière opération secrète au sujet du cadavre d'Hitler. Nom de code, archive, tout simplement. But de l'opération, retirer et détruire physiquement les restes enterrés à Magdebourg et appartenant aux criminels de guerre, peut-on lire dans une note du KGB, comme ça c'est clair. 30 ans plus tard, l'un des lieutenants chargés de cette opération top secrète la raconte devant les caméras de télévision française.
Après avoir déterré les corps, nous avons quitté le camp pour un lieu tenu secret. Là, on a arrosé les caisses d'essence et on a mis le feu. Le travail fini, on a mis les cendres dans un sac. Nous nous sommes ensuite rendus dans un autre endroit pour les jeter.
Les corps d'Adolf Hitler et d'Eva Braun brûlés, leurs cendres dispersées, il ne reste plus que deux reliques. Un bout de mâchoire qui a servi à identifier la dépouille dès mai 1945, et puis le fameux morceau de boîte crânienne redécouvert par les hommes du NKVD en mai 46. Eh bien, ils dormiront dans leurs archives respectives, celle du ministère de l'Armée pour la mâchoire, celle du KGB, puis du FSB pour le crâne, jusqu'à la fameuse exposition organisée en mai 2000 à Moscou. Au vu de l'épaisseur du secret entretenu par l'Union soviétique pendant plus de 50 ans, évidemment, cette expo constitue un événement. Au-delà du crâne, elle présente aussi des photos de la mâchoire et surtout, près de 150 documents jamais rendus publics jusque-là. des procès-verbaux d'interrogatoire des nazis arrêtés par le soviétique et des notes de service soviétiques, comme l'ordre de mission pour l'opération Archive, qui conduit à la destruction définitive des cadavres. On peut y voir aussi des morceaux d'un divan trouvé dans le salon du Führer, dans le bunker, maculé de sang. Le commissaire de l'exposition, par ailleurs directeur des archives nationales russes, porte l'ambition de percer définitivement le mystère de la mort d'Hitler. Il se montre très disponible pour les médias occidentaux qui viennent en masse filmer les derniers restes du dictateur nazi. Mais ces journalistes ont aussi des questions, dont celle-ci. Les archives nationales russes, qui détiennent ce bout de crâne, sont-elles prêtes à le faire analyser par un expert indépendant ? Bon, on le sait, la transparence ne fait pas vraiment partie de la culture des services secrets russes, comme de tous les services de renseignement d'ailleurs. Bon, la porte n'est pas fermée, mais rien ne passe. Jusqu'en 2009, quand la chaîne de télé américaine History Channel annonce un scoop. Dans un documentaire qu'elle produit, un professeur d'archéologie de l'université du Connecticut, Nick Bellantoni, déclare avoir pu réaliser des analyses sur le bout de crâne. Et il affirme qu'il s'agit de celui d'une jeune femme et non pas celui d'Hitler. Alors le doute ressurgit, plus de 60 ans après la capitulation nazie. Et progressivement, les portes des archives se ferment aux curieux occidentaux. Alors, fin de l'histoire ? Non. C'était sans compter sur un célèbre médecin légiste français.
Le 7-9, Ali Badou, sur France Inter.
C'est un cold case, sans doute l'une des affaires non résolues les plus mystérieuses de l'histoire moderne. Comment Hitler est-il mort ? S'est-il vraiment suicidé dans son bunker le 30 avril 1945 ? Officiellement, pas de photo des cadavres du dictateur et de sa femme et un énorme mensonge. Juillet 1945, conférence de Potsdam. Staline affirme à Churchill les yeux dans les yeux qu'Hitler a fui en Amérique du Sud. La CIA, le MI6 l'ont cherché partout pendant des décennies. Bref, des manipulations, des doutes, des fausses routes et des restes qui ressurgissent, conservés aujourd'hui à Moscou, au siège de l'ancien KGB, un morceau de crâne et une dentition qu'ont pu examiner sous haute surveillance des scientifiques et notamment le médecin légiste Philippe Charlier.
Pour les besoins d'une enquête réalisée en 2018 par les journalistes Jean-Christophe Brizard et Lana Parchina, le légiste Philippe Charlier a pu, dans les locaux du FSB, examiner le bout de mâchoire. Pas question toutefois, comme pour le morceau de crâne, d'en prélever un élément pour analyse. Mais Charlier est chanceux. Alors qu'il observe, à Moscou, les dents du dictateur, eh bien, sans qu'il ne s'en rende compte, des minuscules morceaux de tartre s'accrochent à ses gants. Il s'en aperçoit à son retour à Paris et il court les analyser. Il conclut alors que la mâchoire est bien celle d'Hitler et assure avec certitude que le nazi ne s'est pas tiré une balle dans la bouche. Il faudrait encore d'autres investigations pour refermer définitivement le cold case de la mort d'Hitler. Mais à l'heure des révisions historiques poutiniennes, et alors que la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie sert de justification à la guerre menée en ce moment en Ukraine, le mystère risque de planer encore longtemps.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le cadavre d'Hitler, l'encombrant cadavre aux yeux de l'histoire. On en parle avec notre invité Jean-Christophe Brizard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires avec votre consoeur russe Lana Parchina. Vous êtes l'auteur d'une enquête sur le cadavre d'Hitler dont vous avez tiré un livre aux éditions Fayard et un documentaire pour France 2 qui s'appelle « Les mystères de la mort d'Hitler » ainsi qu'une BD en 3 tomes chez Glénat. C'est bien d'avoir pris 3 formats différents. Pourquoi ?
En fait, je trouvais que c'était le bon moyen pour toucher un maximum de personnes. Ces 3 supports me permettent aussi de traiter la même question de manière différente. Avec la BD, j'ai aucune limite. J'ai pas besoin d'avoir des archives qui sont inaccessibles. Donc, je trouvais que c'était vraiment un très bon moyen.
Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et vous a donné envie de vous pencher sur cette affaire ?
En fait, ça remonte à un précédent livre que j'avais fait avec un ami historien, Claude Quettel, en 2014. Il m'avait dit que dans les années 90, s'il était en contact avec le responsable des archives nationales à Moscou, et qu'un soir de bien arrosé, ce directeur des archives lui avait sorti une boîte à chaussures avec à l'intérieur un morceau de crâne, en lui disant « Regarde, c'est un secret, ça serait le crâne d'Hitler ». Donc j'entends ça, et moi tout de suite je lui dis « Mais je veux y aller, je veux aller voir, c'est incroyable ». Et c'était le début d'une grande aventure, parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, une question qui résume toutes les autres, que je vous poserai quand même. La mort d'Hitler, son cadavre, les secrets, les mensonges, les conditions de sa mort, quel est l'enjeu de tout cela?
Alors, pour moi, j'avais vu que de plus en plus, sur Internet, vous aviez de nouvelles rumeurs conspirationnistes sur le fait qu'Hitler se serait échappé de Berlin et qu'il serait mort nonagénaire quelque part sur une plage au Brésil. Et je me disais que c'était incroyable qu'aujourd'hui on en soit encore à remettre en question cette évidence historique. Et j'avais envie de mettre un terme scientifiquement, d'utiliser des techniques scientifiques et historiques pour clouer le bec à toutes ces théories conspirationnistes.
Alors ça, c'est l'enjeu intellectuel dont vous vous êtes chargé. Il y a l'enjeu historique. L'enjeu historique, c'est Staline. Ça tourne autour de Staline.
Alors ça, j'ai ma théorie, mais en fait, Staline n'a laissé aucun document écrit qui justifie son action. Ma théorie, et j'en ai discuté avec des amis historiens, c'est qu'il était paranoïaque et qu'il estimait que le savoir était le pouvoir. Il savait, lui, des choses qu'il ne partageait pas avec d'autres, dont ce secret ultime, le cadavre, la possession du cadavre d'Hitler. Et c'était aussi un moyen pervers d'affaiblir, de fatiguer les services de renseignement des alliés, des anglo-américains.
Mais ce qu'il n'y a pas aussi, et d'abord, la volonté de Staline de prouver qu'Hitler s'était donné la mort comme un lâche et non pas comme de façon plus héroïque en se tirant une balle dans la tête. Ça, c'est plus présentable, si j'ose dire, que le poison, et que ça donnait encore plus de lustre à la victoire des soviétiques. Il fallait que l'histoire soit totalement présentable pour Staline, quitte à déformer les faits.
En fait, ça aurait été valable si ensuite il avait diffusé l'information. Effectivement, il voulait garder pour lui ce secret. Il était satisfait de savoir que, à ses yeux, il s'était suicidé comme un lâche, ce qui est discutable. Mais étant donné qu'il a gardé l'information pour lui, pour un cercle très restreint de responsables soviétiques, non, je pense pas que ça a été vraiment son choix premier.
D'accord. Donc garde ton secret, tu en seras le maître, des vulgueux, tu en seras l'esclave. C'est un peu la pensée de Staline. Alors, il y a une vérité historique, celle qu'on doit retenir. Hitler s'est suicidé dans son bunker d'une balle dans la tête. Donc ça, c'est la version acceptée, historique, scientifique.
Bon, tout à fait. Oui,
donc c'est bien celle. Non, mais c'est bien celle qu'on retient avant de continuer la discussion, d'accord?
Oui, tout à fait.
Alors, quand vous entamez vos prises de contact à Moscou aux archives nationales russes, quel est le contexte en Russie?
Alors, c'est ce que vous avez rappelé dans votre émission. C'est très tendu à cause de l'émission de cette équipe américaine, de cet archéologue américain qui est venu dans ces archives d'État sans autorisation et qui prétend avoir eu accès à ce crâne et qu'après des analyses, c'est un crâne de femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, ça a été terrible. C'était terrible parce que c'était d'un seul coup, on remettait en question, d'une certaine manière, le fait que c'était une grande puissance qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale côté Europe. Et donc, Poutine l'a très mal prise. On était déjà, il y avait des tensions énormes entre les Américains et les Russes, déjà à cette époque. Et Poutine avait fait passer des décrets pour contrôler tout accès aux archives, toute discussion historique sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, on était vraiment dans un contexte très, très sensible. Et moi, j'arrive à ce moment-là.
D'accord.
France Inter. Sensible.
Jean-Christophe Brizard, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé « La mort d'Hitler dans les dossiers secrets du KGB ». Et donc, vous avez vu ces pièces à conviction, c'est-à-dire le bout de crâne et les dents. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous les avez vues? À quoi avez-vous pensé par rapport à vos recherches? Vous étiez parti de la théorie, là vous êtes face à des pièces à conviction, encore une fois.
En fait, il faut imaginer que avant d'avoir accès au crâne, j'ai dû attendre 2 ans. Je suis allé plusieurs fois à Moscou parce que, grâce à Lana Parchina, j'avais des contacts au sein des archives, mais ils me faisaient venir et puis au dernier moment, ils me disaient bah non, finalement, on a changé d'avis, tu peux repartir, c'est pas nécessaire. Donc la première fois que je vois ces objets, quoi, ces restes humains, d'un côté, professionnellement, c'est une forme de victoire, mais de l'autre, il y a une tension incroyable. Pour être franc, le soir même, j'ai fait des cauchemars. Parce que toute la journée, j'avais manipulé des archives d'époque. Par exemple, à un moment, ils m'ont sorti le journal intime de Goebbels. Ils me l'ont donné, ils l'ont balancé sur la table, ils m'ont dit « vas-y, regarde, tu peux le manipuler ». Et tout ça, malgré tout, ce sont des documents qui ne sont pas neutres. Derrière, il y a tout ce passé, c'est très très lourd.
Bien sûr. Alors, on voit, vous publiez dans votre livre les photos, notamment le fragment de calotte crânienne conservé à Moscou. Alors, moi je suis interpellé par la ligne au-dessous qui dit « Ce fragment aurait été découvert devant la sortie de secours du Führersbunker à Berlin. » Pourquoi « aurait » ? C'est-à-dire, les historiens n'ont pas statué là-dessus ?
Mais il y a toujours... C'est difficile parce que les seuls témoignages que l'on a proviennent des services secrets soviétiques. Et il y a toujours possibilité d'être manipulé, toujours un moyen, un risque d'être à côté. Donc, on a affaire quand même au SMERSH, qui est le contre-espionnage ultra-secret de Staline et du NKVD. C'est tout sauf des enfants de cœur, et surtout, ils ont menti. Et notre grande peur à Philippe Charlier et à moi-même, c'était d'être manipulé. J'avais tout le temps ça dans un coin de ma tête, et c'est pour ça que j'ai toujours avancé pas à pas et je me suis reposé sur la science pour éviter d'être manipulé, parce que je savais que ça serait un scoop mondial et que la moindre erreur serait fatale. C'est-à-dire on nous tomberait dessus à bras raccourcis et à raison.
En disant voilà, fake news.
Ce qui aurait été terrible. C'est ça. Ou alors on travaille pour Poutine, parce que déjà à l'époque, il était le dictateur qu'il est aujourd'hui. Donc je ne voulais surtout pas ça. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans chacune de mes publications où je disais que les Russes n'ont jamais eu un accès, un droit de regard sur ce que je faisais.
Et alors les Américains, de leur côté, j'imagine qu'eux aussi voulaient être acteurs principaux de cette affaire, ils ont été squeezés, en fait, totalement.
Ben, c'est ce qui m'a permis d'avoir cet accès, c'était que je sois français. Clairement, pour eux, j'étais d'une certaine manière neutre. Un Américain, c'était forcément le diable, pour eux, c'était l'ennemi, et le français, c'était parfait. Ils se disaient, bon, bah, peut-être qu'il va servir nos intérêts. Nos intérêts étant de prouver qu'ils ont bien le cadavre d'Hitler.
Alors, ce qui vous a aidé également, c'est le travail de notre consoeur russo-américaine, Lana Parchina. Ouais. Ça aurait été possible sans elle ?
Non, je lui dois énormément. Lana a cette faculté à obtenir, à ouvrir les portes quand elles sont fermées à double tour. Et surtout, elle a ce que je n'ai pas, c'est-à-dire la connaissance parfaite de la mentalité de l'homme russe ou de la femme russe qui... J'avais en face de moi des personnes qui avaient grandi, avaient été formées professionnellement à l'ère soviétique. Ouais. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. Ils ont beau nous ressembler, être comme des Occidentaux, ils ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent.
Alors, puisque vous parlez des Soviétiques, vous avez visité la Loubianka, le siège du KGB autrefois, du FSB aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on... que vous parliez tout à l'heure un peu de la lourdeur psychologique de votre travail lorsque vous vous êtes plongé dans des archives dramatiques. Bah, là, il y a aussi... le lieu est un renvoi quand même, un renvoi à l'histoire.
Oui, c'est complètement mythique. Sachant que pendant des dizaines d'années, on entrait à la Lubyanka sans avoir la certitude de pouvoir en sortir vivant ou en liberté. Et pour un étranger, encore aujourd'hui, entrer au siège du FSB, c'est incroyable, et je l'ai fait deux fois. Et je vous donne juste cette anecdote. Donc j'ai vu deux fois les dents, une fois sans Philippe Charlier et une fois avec lui. La première fois, je dis à mon équipe de tournage, je leur dis, on part du principe que ceux qui seront avec nous, les agents du FSB qui seront avec nous dans la petite pièce, parlent français. Ils vont nous faire croire qu'ils ne parlent pas français, mais ils parlent français. On ne se dit rien qui soit péjoratif, qui soit moqueur, quoi que ce soit. On venait très respectueux. Et donc on arrive, c'est une petite pièce, il y a une dizaine d'agents. Et je leur parle en français, ils me répondent en anglais ou ils me font comprendre en russe qu'ils parlent pas autre chose que le russe. Et une fois qu'on a eu terminé la séquence, il y en a un qui vient me voir et dans un français parfait, vient me remercier, me demander comment ça s'est passé. Donc c'est bien ce que j'avais imaginé. Il y a cette paranoïa, cette manipulation, ce sont parmi les meilleurs agents du monde.
Dernière chose, il y a le crâne, il y a les dents. Avez-vous découvert autre chose dans votre enquête, dans ces archives, dans vos déplacements ?
J'ai eu la chance de pouvoir rester des jours entiers dans les archives militaires qui ne sont pas numérisées, digitalisées, et j'ai pu compiler énormément d'histoires, et notamment, là, je travaille sur une enquête qui... sur les liens entre les services secrets nazis et le Vatican pendant la guerre. Des documents qui n'ont pas été déclassifiés. Donc en ce moment, je travaille dessus. Et sinon, j'ai aussi énormément d'infos sur la guerre froide et sur la crise à Cuba. Donc énormément de quoi faire, plein de livres.
Ah ben, vous reviendrez nous voir pour d'autres sujets. Une toute dernière question à laquelle on peut répondre, je crois, par oui ou par non, ce qui nous arrange puisqu'on arrive à toute fin de l'émission. Peut-on dire désormais que les mystères autour de la mort d'Hitler sont levés ?
Je dirais oui et non. Il y a encore beaucoup de choses à... Notamment ces traces bleues sur ses dents, j'aurais aimé pouvoir les analyser.
Bon. Peut-être plus tard. Merci en tout cas. Merci pour merci toutes ces précisions et pour votre expérience que vous nous avez fait partager. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cadavre d'Hitler. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Ronan Mahé.